Un sol majeur.
Un sol majeur.
La nécessité de savoir qui il est et le besoin d'en témoigner par des images volées. Voilà le travail photographique de Bruno Boudjellal qui travaille à l'agence Vue et qui, en s'offrant des jours intranquilles en Algérie, c'est peut-être faire la paix intérieure, car vous avez l'air aujourd'hui, Bruno, tranquillisé, je dirais.
Disons plus apaisé.
C'est vrai, ça
vous apaisé, a... Apaisé, mais toujours un peu agité.
Oui. Oui. Ça vous a permis de passer autre chose dans votre vie ou pas ?
Oui, tout à fait, tout à fait.
D'être papa.
D'avoir des enfants, de marier. Et je pense que c'était ça aussi ce qui m'a poussé à aller en Algérie, hein, c'est d'être bloqué dans ma vie en France. Et il a fallu que j'aille voir de l'autre côté. Et c'est ça, je pense, qui m'a permis de redémarrer, de m'inscrire dans quelque chose. Après, inscription à plusieurs niveaux, je pense, on peut dire tous les voyages en famille, c'est m'inscrire dans une lignée. Et après, j'ai eu l'impression que j'ai arrêté un peu les voyages en famille pour de nouveau revoyager en Algérie dans les années 2000, en me disant que c'était juste comme ça. Et finalement, c'est pas juste comme ça. C'est aussi, ça m'a permis de savoir et de m'inscrire dans un territoire, dans un paysage, même géographique.
Alors j'ai évidemment feuilleté Jours Intranquilles, qui est aussi un catalogue, c'est une expo et un catalogue, où l'on retrouve votre Algérie des années noires. Vous avez été à Bentalha, on va en parler juste après. Vous évoquez ça, mais vous évoquez aussi votre Algérie intime et familiale. Et je trouvais très touchant que devant nous, vous feuilletiez un petit peu cette sorte de journal intime, les premières pages de Jours Intranquilles, pour nous dire comment ça se présente.
C'était une succession, c'est tout simple, hein. C'est un journal, c'est-à-dire qu'en voyageant là-bas, au cours de ces voyages, je prenais des notes qui étaient très anecdotiques de ce que je pouvais ressentir, de ce qu'on pouvait me dire, de ce que je pouvais voir.
Avec une écriture d'enfant, j'ai trouvé.
Oui, tout à fait, et en rentrant en France, souvent, je me posais un peu, parce qu'il y avait une telle tension de ce qu'on pouvait vivre, de ce que je pouvais vivre là-bas et ressentir, et c'était une manière aussi un peu d'expurger tout ça.
Mm-hmm.
Donc il y a plein de choses, donc là on voit par exemple cette reproduction du fameux acte de naissance avec filiation complète, où on comprend une grande partie de l'histoire familiale, mon changement de nom, mais aussi le changement de prénom de mon père, parce qu'il a été dans les années 80 l'objet d'une réintégration. Et en même temps que la réintégration, il a abandonné le nom de prénom de Lemahouche pour se faire appeler Jean-Claude. Après, ça, quelque chose fort, c'est que c'est ma tante, une des sœurs de qui s'appelle Noara, une des sœurs de mon père, de qui je suis très proche, qui un jour m'a offert l'extrait d'acte de naissance de mon grand-père, Hamar, écrit en arabe. Et même si je lis pas l'arabe, ça a été très fort le jour, je m'y attendais pas du tout, le jour elle m'a remis ça, c'était très 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 quelque chose de fort. Après, là on voit par exemple des documents que j'ai pu collecter là-bas, donc les photos de mon grand-père, les photos de l'oncle, ce fameux oncle qui a été tué par les Français. Mais en échange aussi, la famille en Algérie, donc il s'est un peu où s'est installé ça. C'est-à-dire que moi, souvent, je collectais des images. Je voulais des images de la famille qui était mon grand-père, ma grand-mère, les oncles, tout ça. Mais eux aussi m'ont demandé, mais ta vie en France, c'est quoi ? Donc j'avais récupéré chez mes grands-parents français les albums de famille. J'avais pris les photos et je leur ramenais les photos de moi petit, moi avec la grand-mère, moi avec la tante Berthe, moi avec ma casquette de marin aux vacances à la Baule, tout ça. Et puis donc voilà, et après donc ces photos là, alors ces photos de paysages qui sont une maison complètement détruite dans un paysage un peu nu, parce que c'est la région de Sétif, c'est la région des hauts plateaux, peu de végétation. Et puis j'ai longtemps voulu aller dans la maison où était né, où avait vécu mon père, et on m'a longtemps refusé ça, prétextant que c'était trop dangereux. Et effectivement, cette maison, ma famille y a vécu jusqu'aux années 60, et après, chassés par la misère, ils sont venus sur Sétif, ou des villages plus proches de Sétif. Et puis après, cette maison et cette région a été occupée par les groupes armés. Mais quand même, un jour, j'ai réussi à convaincre un de mes cousins, mes jeunes cousins, sans le dire à personne, de me dire, écoute, emmène-moi là-bas.
Bruno Boudjellal, vous aviez une grosse envie, si j'ose dire, de Fela Kuti dans votre programme, avec la chanson culte Sorrow, Tears and Blood.
Tout à fait.
Tout à fait. Mais ça veut dire quoi, tout à fait?
Non, fais-la.
Chanson quand même où il fustige en pidgin, je crois, le gouvernement nigérian, où il critique la police et l'armée, et où il incite un peu la population à se rebeller, à se réveiller.
Non, bah tout à fait. Hein, voilà. je pense la place de l'artiste hein, dans la société.
Oui.
Je pense et à quelque chose de très fort à voir avec ça, même si on peut peut-être tendance à l'oublier maintenant, où on peut tous peut-être être anesthésiés. Mais je pense que ça serait bien de se réveiller.
Fela Kuti, Sorrow, Tears and Blood dans le programme de Bruno Boutchelal, français devenu photographe franco-algérien après enquête familiale sur le terrain. La suite en couleur et en sol majeur.
À quel moment pensez-vous dans l'autre langue?
La langue difficile, bah la langue, je la parle pas, je la. Bon, on va dire, j'aime pas le mot baragouiné, mais je me débrouille depuis tous ces voyages pour des choses très basiques. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un de mes cousins qui m'a beaucoup aidé, avec qui j'ai beaucoup voyagé, qui m'a beaucoup aidé. Lui ne parle que l'arabe. Mm. Il parle pas le français. Et dans ma famille, on parle, à part une ou deux personnes, on parle pas le français en Algérie. Donc, du coup, on se comprend beaucoup, on a beaucoup été ensemble, et je sais pas trop exactement comment on arrive à se parler. Alors, c'est moitié, lui a un peu appris le français. Moi, j'ai appris un peu d'arabe, mais sinon, non, j'ai pas. Il n'y a jamais eu ce souci, cette volonté d'aller l'apprendre. Vous voyez, plutôt quand j'avais 20 ans, je suis allé apprendre le birman en Langzo. Donc, je pense que ça a du sens.
No comment. Est-ce que ça veut dire que maintenant que vous êtes papa, donc deux filles, une qui s'appelle Nejma, une autre Mouna,
ah oui.
Mona, donc les prénoms quand même ont été bien choisis. Vous soufflez un peu le chaud et le froid, question transmission.
Disons, je sens qu'il y a une chose importante, c'est de les emmener là-bas, mais je vais le faire. Après, ça reste, je ne sais pas pourquoi, après il y a certainement une part d'intranquillité de ma part, d'aller là-bas avec elles, mais je sens très clairement qu'il faut les emmener là-bas. Après, je vous dis, la transmission, ça peut se faire aussi par... par d'autres choses, sans forcément que je sois là. Et il y a cette anecdote là de l'exposition où il y a trois jours, les grands-parents de ma première fille Mona sont portugais. Et donc sont venus, étaient à Paris ces jours-ci. Et Mona a dit, moi je veux leur faire visiter l'exposition. Et donc dans l'exposition, il y a un lieu où il n'y a que les portraits de famille, ces fameuses photos dont je vous parlais tout à l'heure. Et Mona était en train de leur expliquer, voilà, ça c'est mon arrière-grand-père, ça c'est l'oncle de papa, ça c'est celui. Donc peut-être ça aussi c'est une transmission.
Prendre racine, ça signifie quoi pour vous ?
Prendre racine, je pense, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Après, moi, je ne sais pas si c'était la plus importante, c'était de savoir si je prenais racine d'un côté ou de l'autre. Ce qui était important, c'est de tout ça, qu'est-ce que j'allais en faire, comment je pouvais avancer avec tout ça. Je pense que l'enjeu, c'est ça. C'est pas de savoir si... Et peut-être aussi, c'est une manière de prendre racine, mais après, de dire si on est d'une rive, de l'autre, ou des deux rives à la fois. Moi, je pense, peu importe, c'est comment on arrive à faire de tout ça, et de tout ça, comment se mettre en marche. Quoi.
J'aimerais que vous nous racontiez juste le 16 novembre 1997, Bruno Boudjelal, quand vous arrivez à Alger, à l'aéroport Boumediene, à la douane. Ça se passe moyen et ça donne ça.
J'arrive pas à Alger. Nous repartons d'Algérie du deuxième voyage avec mon père. Nous repartons à l'aéroport de Constantine, nous rentrons en France. Et donc, après avoir obtenu les cartes d'embarquement et dit au revoir à la famille, nous voilà au poste de police pour les formalités de sortie. Il me faut votre carte militaire. Mais je n'en ai pas besoin. Pourquoi demander cette carte alors que je suis français ? Vous vous appelez comment ? Bruno Boudjelal. Et donc vous êtes français. Et donc, français d'origine algérienne. Vous êtes donc algérien. Donc montrez-moi vos papiers militaires. Mais je ne les ai pas. Alors vous restez ici. Il prend mon passeport et celui de mon père. Quelques minutes plus tard, il ressort furieux et jette par terre le passeport de mon père. Toi, tu peux sortir, le traite. Tu voyages avec un passeport français et tu as même changé ton prénom. Nous n'avons pas besoin de gens comme toi. Ici, rentre et ne reviens jamais. Mon père, sans rien dire, ramasse son passeport et s'en va, sans même un regard pour moi. Mais ton fils, on le garde et on va s'en occuper. Mon père ne m'a même pas parlé. Il a fui.
Édifiant, hein. D'abord sur cette incertitude du « je suis algérien » ou « je suis pas algérien », puis quand l'Algérie vous déclare algérien, c'est pour vous engueuler. Non, mais c'est ça un petit peu.
Non, ça reste très compliqué parce que si j'ai les deux passeports, donc si je voyage avec le passeport algérien, on va me dire « mais pourquoi toi tu voyages avec, t'as un passeport algérien alors que t'es en France, tout ça ?» Si je voyage avec le passeport français, on va me dire « mais toi t'as honte, hein, t'as honte d'être d'origine algérienne, pourquoi t'as pas un passeport algérien ?»
Donc pour vous, Algérie égale peur ?
Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Peur parce que il y a mes propres peurs, mais aussi la peur qui est liée à cette intranquillité qui, pendant ces 10 années, ou pendant tout du moins de nombreuses années en Algérie, la vie de beaucoup d'Algériens était liée à cette peur. Et à partir du moment où vous étiez avec eux, vous voyagez avec eux, vous viviez avec eux, vous étiez aussi là-dedans.
Vous étiez contaminé par cette peur algérienne.
Tout à fait.
Dans cette expo, on va s'apesantir une seconde de plus parce que vous passez du noir et blanc à la couleur et puis de l'autobiographie au reportage photographique, ce qui vous amène sur les lieux d'un massacre à Ben Talha en Algérie et vous pouvez photographier ces lieux.
Disons, photographier, c'est un bien grand mot. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait le deuxième voyage avec mon père, c'était à l'automne 97, c'est ce qu'on appelle juste après la période des grands massacres, où toutes les nuits, il y avait des massacres, 300 personnes, 200 personnes. Et parmi tous ces massacres, il y a eu ce fameux massacre de Ben Talha, qui est une ville de la Mitidja. C'est la plaine qui est proche d'Alger. Et la nuit du 22 septembre, entre 10h du soir et 4h du matin, plus de 400 personnes ont été tuées. Et donc voilà, et donc un
sans
jour...
Sans intervention
Disons,
de
ils ont
l'armée.
Été tués. Alors beaucoup de gens se sont posés des questions en se disant c'est au cœur de la région militaire d'Alger, à 10 minutes il y a une caserne de gendarmerie, et beaucoup de questions ont été posées en disant ça n'a pas été une embuscade de quelques minutes, ça s'est fait méthodiquement pendant plusieurs heures. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de questions soulevées.
Alors comme vous arrivez en 2002, qu'est-ce que vous pouvez photographier ?
En 2002, c'est un hasard. J'ai eu longtemps l'envie d'aller, mais d'aller quoi y faire. Et puis un matin, un bon ami à moi qui s'appelle Darmen. On va se promener en voiture souvent, on roulait en voiture beaucoup. J'ai beaucoup roulé en voiture en Algérie. Et je vois qu'on va sur la, on sort d'Alger, on va sur la plaine de la Mitidja. Et je lui dis, mais où tu m'emmènes? Il me dit rien. Et puis je vois cette, la fameuse pancarte sur la route de l'entrée de, du village, Bentala. Et donc, j'étais pas préparé, j'avais juste un appareil photo. Il me restait que quelques photos. Et donc, je fais des photos comme ça, je fais une, deux, trois, et puis on rentre dans le quartier du village où sont vraiment passés les massacres. Et mon ami me dit, si tu veux, je connais des gens, j'ai des... là on peut aller dans une maison. Mais je lui dis, tu sais, dans une maison, quoi faire et qu'est-ce que je vais y faire? Et puis on y va quand même, on rentre cinq minutes, donc je fais comme ça des images un peu intuitivement. Et au bout de cinq minutes, un petit enfant vient nous chercher, il dit, il faut que vous partiez, des gens savent que vous êtes là, c'est pas bon pour vous de rester. Donc on part. Et on ressort du village, je finis le film. En tout, je pense, toutes les photos se suivent. Hein, c'est, je pense, 16 ou 17 images. Et voilà, et nous quittons Bentala. Et donc, cette série de Bentala sur les lieux d'un massacre ne se veut absolument pas un travail de mémoire où je me suis posé sur un lieu, parler avec les gens. C'est juste le résultat d'une expérience, peut-être d'une demi-heure sur un lieu de massacre. Mmh. Ni plus, ni moins.
Mais c'est juste la trace de... C'est la preuve que vous étiez bien au cœur des ténèbres. Ce sont des images un peu de désolation, de maisons inhabitées.
Tout à fait, bah, l'absence. L'absence.
Si on écoutait Haïtien Troubadours.
Tout à fait.
Un CD que vous nous avez gentiment ramené, pour quelle raison, Bruno Boudjelal?
Bah, beaucoup, je le dédie à ma femme Corinne, qui est d'origine martiniquaise et avec qui j'ai découvert une grande partie de cette culture et les îles. Et voilà, je sais pas, j'ai une grosse affinité avec la Martinique, les îles.
Songez maman, nous te comptons pas ça deux. Sous place voyez, nous te comptons rencontrer. Pour nous parler, nous caresser, moi tu tout ça penser. C'est nous ou même chérie, moi v'lais pour m'habiter. Pour faire l'amour doudou, jour que ton soleil levé. Minuit sonne, n'a pas moyen, tout comme un frissonné. Pas ça qu'aimé, moi v'lais rêter, comme ça moi v'lais.
En sol majeur et dans le programme de notre invité, le photographe Bruno Boudjelal, français issu de l'immigration ou algérien, je crois qu'on peut tout vous dire maintenant que vous occupez le terrain des deux côtés de la rive. La suite en sol majeur.
Imaginons un Big Bang numéro 2. Vous êtes le seul rescapé, vous rencontrez une créature de l'espace que n'a jamais entendu parler de la France. Que lui dites-vous?
Ah, en ce moment, je lui dis de passer son chemin. Je lui dis que ça vaut pas le coup de s'arrêter. Oui.
Bon, mais avant ce en ce moment, s'appeler Boudjelal dans cette France, ça vous a causé quelques soucis?
Oh, des petits soucis par rapport à, qui sont très petits par rapport à beaucoup d'autres, des soucis de le fait de pas avoir un appartement, de des choses comme ça, mais pas énormément.
Mais vous, vous ne vous êtes jamais vu ou senti comme un fils d'immigré?
C'était présent, disons, j'ai essayé de c'était présent, sauf que j'ai essayé de cacher, de taire ça. Dans ce aussi chose qui m'a été confortée par exemple par mes grands-parents français, qui ont essayé de me taire. Mais alors, est-ce que c'était contre ou c'était pour m'aider, ça je sais pas trop bien, de me disons, si tu peux mettre ça complètement en arrière-plan et même l'oublier, d'essayer de devenir amnésique, ça t'aidera mieux à avancer dans cette société.
Ça c'est complètement raté donc, depuis que vous vous êtes déplacé identitairement, vous n'aviez qu'un pays pendant très longtemps, la France, et puis vous la dotez d'un deuxième pays qui était peut-être un pays étranger, l'Algérie, je ne sais pas. Est-ce que vous regardez et la France et l'Algérie différemment aujourd'hui, dans leur rapport?
Je ne sais pas, je pense que enfin, les rapports à la France et de l'Algérie sont... Je pense plus que compliqué.
Ça, vous en êtes la preuve.
C'est pas une vérité. L'Algérie, pareil, elle reste un pays où, pour lequel que j'aime beaucoup, mais j'ai beaucoup d'inquiétudes. Je sais pas d'inquiétudes, mais beaucoup de doutes. Quant à la France, dans ce moment, je suis plutôt très en colère.
Est-ce que vous pouvez me décrire la manière dont vous avez meublé votre maison?
Ma maison, elle est faite d'une accumulation qui est liée à mes voyages. Donc, il peut y avoir toutes sortes de choses qui ne sont pas spécifiquement des objets qui viennent d'Algérie. Il y a aussi des objets qui viennent d'Algérie, mais il peut y avoir des Bouddhas birmans, des Bogolans du Mali, des statues africaines. Donc, c'est un mélange de ce que je suis, plutôt de ce que nous sommes avec ma compagne, qui a aussi beaucoup voyagé, qui a vécu longtemps, pendant 17 ans au Gabon. Et donc notre intérieur est un peu le résultat de, pour dire politiquement correct, de cette diversité culturelle.
Qui vous met donc en colère?
Tout à fait. Après, je en colère parce que je suis en colère par rapport à la France de Sarkozy, il faut dire le nom. Je suis en colère par rapport à ces gens, ce qu'ils véhiculent. Je suis plutôt content. Là, j'ai vu que la société civile s'est mobilisée sous pression. Le fils de Monsieur Sarkozy va retirer sa candidature. Mais alors, pourquoi il n'y a pas eu autant de mobilisation sur les mots d'esprit de Monsieur Hortefeux? Là, je m'interroge. Et j'ai l'impression qu'on vit un peu une époque, on peut un peu tout dire. Il peut y avoir une indignation, mais ça va passer à autre chose. Je suis aussi très en colère par rapport à la gauche. Parce que je pense qu'ils sont, eux, ils rebondissent là-dessus, mais ce sont que des gesticulations et des effets de manche, parce qu'ils ne sont pas capables de créer du sens, et il n'y a pas quelqu'un qui est capable de se redresser, un homme, une femme, et d'avoir une position claire, et de créer du sens, et de dire les choses. Donc je vous dis, ils essayent d'exister, ils ont l'impression qu'on peut exister à travers la gesticulation, et ça c'est une illusion.
Donc une colère froide, et d'un intranquille, qui vous va pas mal, par rapport à la France de Sarkozy, par rapport à l'Algérie de Bouteflika, pour être très sport.
Tout à fait, parce qu'un grand... Moi, j'ai l'impression de l'Algérie d'un grand potentiel, de plein de choses. Je vous dis, tous ces voyages en Algérie, j'ai certainement rencontré les gens les plus exceptionnels que j'ai jamais rencontrés dans ma vie.
Il y a une petite loi dont vous me parliez là, sur les haragas, les brûleurs de frontières, qui viennent sortir.
Oui, tout à fait. Il y a quelques mois, il y a une loi de ces fameux haragas qui brûlent les papiers, qui prennent des bateaux de fortune pour traverser la Méditerranée. Maintenant, a été votée une loi qui interdit de quitter son pays.
Sans commentaire.
En sol majeur, @rfi.fr.
Et vous pouvez nous rejoindre sur Facebook et sur notre blog pour y retrouver les pépites des invités ou y déposer vos témoignages sur la double culture, deuxamours.blogs.rfi.fr. Choukran, Bruno Boudjelal. Je rappelle que votre très belle exposition Jours intranquilles, chroniques algériennes des retours se tient jusqu'au 14 novembre au pavillon carré de Baudouin. C'est à Paris dans le 20e. Et puis on va se quitter avec de la chanson française. C'est la seule de votre programme. Oui. Il s'agit de Jean-Louis Murat avec Le lien des faits.
Tout à
un joli
fait.
Titre dans votre cas.
Tout à fait. Hein? Bah, oui.
Comme l'ange noyé dans la durance comme un démon. Tu déferas le tien comme l'oiseau borgne, comme Jeanne de France. Dans ta démence, tu déferas le tien. On se croit d'amour, oh, on se croit féroce, enraciné. Mais revient toujours le temps du lien des vies. D'amour, oh, on se sent épris d'éternité, mais revient toujours le temps du lien des faits. Hey.
Fillette, Marc de l'Ouvrier, Richard Ifono, Yasmine Chouaki. On se retrouve lundi pour une petite semaine de rediffusion. Lundi, vous pourrez redécouvrir ou découvrir L'âme survivante de Safia Autocoré.